Bonjour mesdames et messieurs, bonjour tout le monde. Nous sommes ici au siège de la délégation régionale de Normandie avec quatre bénévoles qui sont très impliqués dans la délégation. Et nous allons parler aujourd'hui du bénévolat. Donc nous avons Yamina à ma gauche qui va se présenter brièvement.
Bonjour Yamina, bénévole au sein de Médecins du Monde Normandie. Je viens de terminer un stage de 4 mois au sein de la délégation. Et je travaille sur la réalisation d'un newsletter avec le comité éditorial.
Merci beaucoup Yamina. Claude.
Claude, bénévole au sein de Médecins du Monde. Je travaille sur le programme CADO et également là en ce moment sur l'élaboration de notre newsletter. Voilà, avec le petit groupe qui va se présenter autour de la table.
Et depuis combien de temps vous êtes bénévole?
J'ai une petite interruption, donc là c'est plus peut-être 2000, je suis arrivée en même temps qu'au dit, mais je ne sais plus. En même temps qu'au dit,
5 ans, on va dire 4 ans.
Peut-être 4 ans.
Merci Claude. Pascal.
Pascal, donc je suis bénévole depuis 7 ans. Je suis rentré à Médecins du Monde après avoir passé 2 ans de retraite tranquille pour ensuite rejoindre cette belle association. Je suis passé par plusieurs programmes et actuellement je participe au programme CASO. Et puis donc je suis élu au collège, je suis secrétaire du collège. Voilà.
Très bien, merci Pascal. Donc moi je vais me présenter, donc Bernard. Je suis bénévole depuis un peu plus de 5 ans. J'ai commencé, en fait je suis rentré à Médecins du Monde grâce à Pascal qui est à ma droite là. Vous ne le voyez pas, mais il est à ma droite.
Grâce à
Pascal.
Grâce ou à cause.
Ou à cause de Pascal qui m'a beaucoup parlé, qui m'a beaucoup vanté les qualités de Médecins du Monde et qui m'a surtout parlé d'une mission qui était en train de se monter, qui était la mission mineure non accompagnée. Et comme j'avais dans ma vie pratiqué en tant qu'éducateur, je me suis dit, c'est la fin de mon parcours professionnel, je vais retourner aux bonnes vieilles méthodes éducatives. Voilà, c'est comme ça que je suis rentré à Médecins du Monde. Et aujourd'hui, je suis donc délégué régional de la délégation Normandie. Voilà. Alors, on va donc parler du bénévolat. Alors, peut-être commencer par le commencement. Aujourd'hui, la question qu'on peut se poser, c'est qui sont les bénévoles en France? Les bénévoles en France, c'est vaste, on ne sait pas trop, c'est un peu confus, il y a plein de choses qui se disent. Mais il y a pas mal d'écrits aussi, et peut-être que, Claude, je crois que tu as travaillé là-dessus, et que tu pourrais nous donner quelques éléments d'information, une citation, un texte, un bout de texte.
La société de l'engagement, ça m'a été procuré par la Ligue de l'enseignement, et c'est un document qui date un peu, mais à mon avis, qui ne date pas tant que ça, puisqu'il est de 2017, alors je pense qu'entre 2017 et 2021, il n'y a pas dû y avoir beaucoup de changements. C'était une étude de sociologue qui montrait le caractère sélectif de l'engagement et qui a été accéléré par le mouvement de professionnalisation du monde associatif depuis les années 80. Les caractéristiques sociodémographiques comme la classe sociale, le niveau de diplôme ou encore l'âge sont devenues déterminantes dans la participation associative. Alors ce qui me paraît important, c'est que, enfin moi ça m'a un peu surpris, c'est que 69% des associations sont présidées par des hommes. Si à certains moments, on constate, notamment, on va peut-être le dire plus tard, qu'au sein de MDM, par exemple, il y aurait plus de femmes.
Je vais
le préciser tout à l'heure. 63% des présidents sont des professions libérales, des cadres moyens et supérieurs. Alors, de plus, la croissance du bénévolat marque des disparités générationnelles, la vie associative étant aujourd'hui en premier lieu portée par les retraités, les actifs étant moins engagés que leurs aînés. Donc en 2017, les sociologues avaient noté que 32% avaient plus de 65 ans. Et ce qui est intéressant quand même, et là c'est noté en gras dans leur texte, que alors même que l'engagement bénévole dans les associations des moins de 35 ans se consolide. Ça veut dire que nos plus jeunes sont intéressés par le bénévolat et que le bénévolat est quelque chose qui est extrêmement valorisé et extrêmement qui est en train de se de prendre de l'ampleur et de se déployer chez les jeunes. Alors ça, c'est intéressant parce que on dit aussi souvent que les jeunes ne s'intéressent à rien, ils sont devant leur écran, machin, et je trouve que c'est important. Ce truc-là, c'est 2017, il y avait déjà les tablettes, il y avait d'autres... Et qu'on peut peut-être se dire que les jeunes sont faudrait pas qu'on s'attribue, nous les vieux, le truc du bénévolat.
Absolument, oui, tout à fait. Ouais.
S'intéressent à la société, ouais. S'intéressent aux gens qui sont autour d'eux, peut-être même davantage que nous, de façon peut-être moins égoïste.
Méfions-nous du regard des vieux sur les jeunes.
Absolument, cher ami. Voilà. Donc voilà.
D'accord,
très bien. En 6 ans, c'est chez les jeunes que la progression est la plus forte, 21,3%. Chez les 15-35 ans, d'accord. En 2015.
Pascal, peut-être tu...
Oui, je réagis parce que...
Je te vois réagir.
Il y a quelque chose que j'apprécie depuis le début chez Médecins du Monde, c'est qu'il y a une grande diversité. C'est comme ça que je vis les choses. Donc il y a cette mixité qui est réelle. Il y a le fait qu'il y ait à la fois des personnes, des seniors, mais aussi des jeunes. Il y a le fait aussi... qu'il y ait des personnes qui viennent d'origines différentes, de cultures différentes ou de pays différents. Moi, c'est quelque chose que j'apprécie dans Médecins du Monde, c'est cette diversité dans la composition du groupe des bénévoles.
Bah Pascal, là, tu viens de faire une transition formidable, parce que c'est justement la question qu'on se posait ensuite. Qu'est-ce qui se passe à Médecins du Monde ? Là, on vient d'évoquer le bénévolat au sens général, mais là, on va entrer un petit peu dans Médecins du Monde. Alors, il y a eu... un travail qui a été fait par une association qui s'appelle Ancilla sur l'engagement bénévole de Médecins du Monde et qui nous dit un certain nombre de choses. Qui nous dit notamment qu'il y a une évolution des engagements qui est à mettre en parallèle avec celle de l'engagement bénévole en France, ce qu'on vient d'évoquer. Donc, de fait, des parcours de vie plus fragmentés au niveau professionnel, des changements de métier, des postes différents, la multiplication des périodes d'inactivité, les situations des personnels qui sont variables, déménagements et autres, les parents vieillissants, la recherche du sens aussi beaucoup. Les engagements au long cours ont été remplacés par des engagements de plus courte durée. Et au sein de MDM, plus de la moitié des bénévoles, 58%, ont moins de 3 ans d'engagement dans l'association. Donc c'est vraiment des engagements récents et qui se renouvellent. Et les personnes sont plus tournées vers des engagements d'action afin de pouvoir mesurer leur utilité personnelle. C'est-à-dire, on s'engage, on veut voir ce qu'on fait... Qu'est-ce que ça produit ? L'individu construit son parcours d'engagement parmi une grande diversité de causes à défendre, avec des modes d'action proposés. Ainsi, plus que consacrer leur parcours militant à la cause d'une vie, nombreuses sont les personnes qui mènent plusieurs engagements en parallèle. Ça, c'est intéressant aussi, parce qu'effectivement, les gens ne sont pas uniquement centrés sur Médecins du Monde. Mais c'est le cas de plus de 66,7% des bénévoles de moins de 25 ans et 53% des bénévoles de plus de 60 ans. Donc, une grande majorité des bénévoles ont plusieurs activités bénévoles. Alors après, il y a la catégorie socio-professionnelle, et effectivement, le nombre de bénévoles diplômés d'enseignement supérieur est écrasant, 91%. Mais c'est beaucoup lié au fait qu'il y a beaucoup de médecins, puisqu'on est médecins du monde. Et donc, évidemment, ça fausse un peu les pourcentages. Et ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est que la féminisation du bénévolat est très nette chez MDM, puisque les femmes représentent 69,6%. Donc on est moins de la parité, il va falloir qu'on travaille là-dessus sérieusement. Et donc, voilà, on peut dire ça, mais on retrouve en fait la tendance nationale, et la question qui se pose aujourd'hui, c'est la façon d'attirer de nouveaux bénévoles. Alors ça, on y reviendra peut-être un peu plus tard. Et il y a une question qui peut-être nous préoccupe aussi, c'est de clarifier un peu les choses, entre caritatif et militantisme. Oui. Est-ce qu'on est, à Médecins du Monde, entre militantisme et caritatif, est-ce qu'on est militant, caritatif ? Bref, c'est des questions qui nous intéressent au premier chef sur lesquelles on travaille actuellement, dans le cadre de cette newsletter. Claude, peut-être, tu pourrais nous toucher deux mots sur la différence. Alors, registre du droit, registre du droit.
Non, on a dit que c'est le bénévolat, mais on voulait aussi introduire l'engagement et l'engagement associatif, le militantisme aussi. Et donc, en fait, c'était deux registres pour aborder le militantisme et puis le bénévolat. C'était le registre du droit, dont j'ai parlé tout à l'heure avant que ça s'enregistre. le registre du droit qui est que de toute façon, en étant un médecin du monde, on accueille des personnes pour lesquelles il va falloir, lutter pour faire valoir leurs droits.
Leur permettre d'accéder au droit.
Donc ça, c'est pour nous, c'est une je dirais que ça fait partie de l'ADN de médecins du monde. Hein, c'est, on ne peut pas y échapper. Et l'autre partie, c'est la fameuse pourquoi est-ce qu'on est bénévole. On peut se poser la question pour se rendre utile, certes, mais aussi de se dire on a eu, nous, peut-être dans nos vies, pas toujours aussi, mais bon, majoritairement, on a pu accéder à la base de ce que peut posséder un être humain, à savoir se nourrir, se loger, faire des études, avoir des droits à la santé. En devenant bénévole, on a envie de partager, en fait, de donner, de redonner ce que nous, on a obtenu de façon peut-être un peu naturelle. Voilà, c'était un peu mon...
Bon, ça c'est intéressant, mais il y a quand même des choses qu'on peut, toujours dans notre interrogation, c'est les individus, c'est des individus, ils fonctionnent tout seuls, mais il y a un collectif, il y a une organisation à mettre en place, donc... Comment tout ça, ça se met en œuvre? Comment les leviers individuels, c'est-à-dire personnels, qu'est-ce qui fonde notre fonctionnement, développent une façon d'être, une façon de militer, une façon d'être dans l'action? Alors, le premier point, c'est peut-être, je ne sais pas, Irina, tu as travaillé là-dessus, sur la question du militantisme, par exemple. Tu pourrais peut-être militantisme, de caritatif, on l'a évoqué tout à l'heure, mais peut-être... aller un peu plus avant là-dessus.
Alors justement, en préparant cette newsletter, on a travaillé sur un questionnaire qu'on va mettre à disposition des lecteurs de la newsletter. Et la question qui est posée, c'est quelles sont vos principales motivations à vous engager en tant que bénévole. Donc on a listé un certain nombre de réponses possibles en espérant trouver abordé les différentes causes, en fait les différentes raisons qui motivent les personnes à s'engager. Et donc, par exemple, on a être utile à la société et agir pour les autres, ce qui apparaît en premier lieu comme réponse. Il y a aussi l'épanouissement personnel et le fait d'appartenir à une équipe et à un groupe. Et ça, en fait, on en a parlé en préparant justement la newsletter. On ne peut pas ne pas prendre en compte la dimension qu'on disait collective du bénévolat. Et le lien social que ça engendre. Et on avait justement, nous, constaté, par exemple, que certaines personnes au programme du CASO, donc c'est deux fois par semaine, après-midi, des personnes viennent s'inscrire pour faire une permanence donc, d'accueil social et puis une permanence médicale pour les médecins. Et en fait, il y a des personnes qui font en sorte de s'inscrire ensemble, au niveau du planning, de s'inscrire aux mêmes dates, parce que c'est des gens qui ont l'habitude de faire les permanences ensemble, et du coup, ça a créé certainement un lien social, ça a créé des affinités. C'est des personnes qui ne se connaissaient sans doute pas avant et qui maintenant se côtoient en dehors de l'association. Donc, on peut dire qu'être bénévole au sein de Médecins du Monde, ça permet aussi de créer du lien social en dehors des actions qui sont menées par Médecins du Monde. Donc, je pense que c'est aussi donc une raison qui fait que les personnes, peut-être pas s'engagent, mais en tout cas maintiennent leur bénévolat. Il y a évidemment la cause défendue par l'association, et c'est là qu'on peut aborder la question du militantisme, puisque Claude l'a abordé juste avant. Il y a des associations qui ont différentes natures, et en fait, appartenir à une association où on va faire la distribution alimentaire, par exemple, et appartenir à Médecins du Monde, où il y a toute la question justement de l'accès aux droits, et c'est un peu différent dans le sens où il faut adhérer à la cause qui est défendue par Médecins du Monde. Et donc,
on est dans quelque chose qui a à voir au changement dans le militantisme.
C'est ça.
Alors que dans le caritatif, on ne change rien. On fait des choses, on sert à quelque chose, mais on ne change rien.
Voilà, c'est des actions, c'est ça, c'est pour combler quelque chose, donc c'est des actions. Alors que, oui, en effet, bon, c'est ça, le changement, l'évolution. Donc voilà, c'est ça, il y a l'idée du mouvement. Il y a aussi, justement, dans les motivations possibles pour s'engager, le fait de mesurer le fruit des efforts fournis, le fait de constater que son bénévolat est utile. Alors, ça vient dans un second temps, évidemment, puisqu'il faut pour ça avoir des bénévoles pendant un certain temps. Mais du coup, là, on voit tout l'intérêt du plaidoyer au sein des Médecins du Monde. Il faut bien évidemment que les bénévoles qui s'engagent à Médecins du Monde aient bien conscience de l'intérêt du plaidoyer et de l'efficacité, évidemment, du plaidoyer qui permet justement d'obtenir des droits, des choses comme ça.
Pascal, oui. Oui, à propos du changement, je pense que c'est important toujours d'avoir en tête qu'une association comme Médecins du Monde a une histoire et de se situer dans une histoire, parce que c'est là qu'on voit les effets de Médecins du Monde en termes de changement. C'est-à-dire que si on regarde les choses de trop près, on peut avoir l'impression que rien ne bouge finalement, qu'on agit et que ça ne bouge pas tant que ça, que ça ne change pas tant que ça. Mais si on voit l'action de Médecins du Monde sur un temps relativement long, on voit que Médecins du Monde a permis d'apporter des changements importants, entre autres l'AME, l'aide médicale d'État, et puis on pourrait citer d'autres.
Prix du médicament.
Oui, voilà. Voilà. Donc il faut toujours aussi avoir ce regard sur le temps long, et ça fait partie sûrement de notre façon de présenter Médecins du Monde, par exemple, aux personnes qui vont venir vers nous, à savoir que on agit vraiment. Notre action a des effets sur la société et sur son évolution.
Mais cette notion de changement est vraiment très importante et on voit la différence avec effectivement des structures caritatives qui sont très importantes, bien évidemment. Mais nous, on a une volonté de changement, on a une volonté d'efficacité et je crois que c'est quelque chose qui doit être passé comme message auprès des bénévoles, que derrière la notion de bénévole chez Médecins du Monde, il y a la notion de militantisme. Mmh.
Justement, on va aborder cette question un peu plus tard, mais c'est toute la différence, comme tu disais, Bernard, entre militantisme et action caritative, dans la mesure où avoir un engagement militant, ça implique un cadre. Donc
on en reparlera tout à l'heure.
Et puis, je voulais juste aborder comme autre motivation, en tout cas qui permet de maintenir son engagement, de s'engager en tant que bénévole, c'est d'avoir une sorte, enfin de développer des compétences et en tout cas se développer personnellement à différents niveaux. Et c'est vrai que par exemple, au sein d'une association comme Médecins du Monde, en étant bénévole un certain temps, j'imagine, on développe forcément des compétences, on apprend des choses en tout cas qui nous sont utiles pour nos actions au sein de Médecins du Monde, mais qui par ailleurs pourront être utiles aussi ailleurs dans d'autres actions bénévoles dans la vie au quotidien. Donc, les lecteurs auront l'occasion de répondre à cette question sur la vidéo.
Oui, mais on voit bien qu'on a déjà répondu en partie à toutes ces questions. Pourquoi le choix de MDM vient d'être développé de manière un peu informelle, mais on voit bien qu'il y a beaucoup de choses. Pascal, peut-être là-dessus.
Oui, c'était à propos de la... donc on parle de caritatif et de militantisme, de plaidoyer. Mais une notion moi, que je voudrais apporter aussi, qui c'est la... Parce qu'on participe de ce type de travail-là, c'est le care. Il y a c'est un terme anglais, ça veut dire prendre soin de l'autre. Et je crois qu'il y a le militantisme, c'est quelque chose, on est un peu dans l'ordre des idées, des valeurs, des projets, des idéaux. Et le care, c'est le fait d'être près de la personne et d'avoir le sentiment de lui apporter quelque chose. Très, très concrètement, et je pense que c'est important d'être dans cette attitude-là et de pouvoir ressentir et vivre cette attitude-là, à savoir qu'on a en face de nous des personnes comme disait Claude, qui sont nos alter ego et auxquels on apporte vraiment quelque chose parce qu'ils vont, ils vont nous remercier, par exemple, ils vont nous dire oui, là, vous m'avez dépanné, vous m'avez donné une bonne information, vous avez... Je crois que la notion de care, c'est quelque chose aussi qui donne de la chair à cette action, à cet engagement bénévole.
Oui, puis là-dedans, ce que tu dis, il y a aussi la bienveillance de l'accueil et l'accompagnement. C'est-à-dire, autour de cette question du soin, comment on est bienveillant, comment on accompagne, comment on est dans une relation d'humanité avec les personnes qui viennent... nous voir, et qu'on va voir à l'extérieur.
Et qu'on va, avec lesquels on va passer quand même un certain temps.
intéressant parce qu'on vient vraiment de dessiner un peu le, l'ossature, en fait, le corps, en fait, de Médecins du Monde, de son identité, de sa philosophie. Et par rapport à toutes ces questions-là, une fois qu'on a, on voit bien qu'être bénévole à Médecins du Monde, ça a du sens. Ça veut dire un certain nombre de choses. Ça veut dire aussi un certain nombre de choses personnelles pour, en termes d'enrichissement, en termes de liens. On en a parlé tout à l'heure. Mais une fois qu'on a dit ça, on rentre dans l'action. Et là, on rentre dans l'action. Il y a un certain nombre de choses qui se passent et on peut s'interroger sur. Bah, d'accord, je suis bénévole, très bien, je m'inscris sur un planning, je m'inscris sur etc. Mais est-ce qu'il y a une notion de temps consacré au bénévolat? Est-ce que, voilà, souvent on dit que vous soyez présent une heure ou 10 heures ou 3 jours par semaine, c'est la même chose. Vous êtes bénévole et ce qui compte, c'est le fait de pouvoir compter sur vous. Est-ce que ça, c'est suffisant? Question. Se poser. Est-ce que le bénévolat nécessite du temps consacré? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, Yamina.
Alors, justement, la question qu'on se pose, c'est par rapport au temps, c'est quoi un engagement qui compte? Et en quoi un engagement bénévole peut être efficace, en tout cas? Je pense que ça dépend des associations, et là, si on parle de Médecins du Monde, puisque c'est ce qui me concerne. Concrètement, si on prend l'exemple, donc moi j'ai été présente pendant 4 mois pendant un stage, et du coup j'ai eu l'occasion de voir les différentes sphères, les différents programmes, en tout cas, d'avoir affaire aux différents bénévoles et de voir comment ça fonctionne dans la délégation ou dans mon dysfonction. Et si on prend par exemple l'exemple, si on prend l'exemple du CASO, il y a des procédures pour accueillir les personnes. Il y a des choses qui ont été mises en place, par exemple, pendant cette année particulière du Covid. Il y a une période de changement, de choses comme ça. Et un bénévole qui n'était pas présent assez régulièrement aurait été perdu. Parce qu'il y a eu des mises à jour de procédures, il y a eu des choses à mettre en place, et donc en fait, mais je pense que c'est valable tout le temps, ça a été le cas particulièrement pendant cette année, mais je pense que c'est valable tout le temps au sein des Médecins du Monde. Ça demande, je pense, un temps minimum, alors après à définir ça, c'est pas, je ne sais pas lequel, mais un temps minimum de présence pour ne pas perdre de fil dans la manière d'agir, que ce soit l'accueil, les procédures à mettre en place. Quand on oriente des gens, par exemple, vers des structures en fonction des besoins qu'ils ont, il faut connaître les structures, être en contact avec elles. Donc on commence à acquérir des compétences, des réflexes, des choses qu'on arrive à faire de manière un peu rapide, comme ça. Et en fait, je pense qu'en étant présent trop peu souvent, on perd ces réflexes, on perd peut-être aussi un peu en compétences. Donc ça a forcément un impact sur l'engagement. En tout cas.
Oui, ce que tu dis là, c'est important, c'est que c'est pas le temps pour le temps, c'est le temps il en faut pour connaître, travailler dans la structure, dans le programme, etc. Oui. Et suivre l'activité dans son évolution. Oui. À la fois l'évolution des bénéficiaires qui changent aussi, on a des populations différentes, mais aussi l'évolution des pratiques, et l'évolution des contraintes aussi par rapport au risque sanitaire, par rapport à tout un tas de choses. Et ça, c'est très très important. Notre questionnement sur le temps, c'est pas tellement de se dire s'il vient qu'une heure, c'est aussi bien que s'il vient 12 heures, ou c'est pas ça. C'est de dire non, il faut du temps pour travailler en tant que bénévole et pour être compétent. Donc c'est une notion importante. Et il a été évoqué aussi dans ce que tu viens de dire, Yamina, mais peut-être Pascal peut en parler ou parler d'autre chose, c'est la qualité. Parce qu'on peut être présent, alors à la limite, longtemps, justement pour suivre les évolutions du programme, mais la qualité, qu'est-ce que c'est que la qualité? Est-ce qu'il y a une notion qualitative dans notre façon de fonctionner? Pascal?
Je vais reprendre après ce que Yamina a dit pour parler de ce moment-là, justement, où on va recruter, où on va aller au-devant des futurs bénévoles. Et je crois que c'est des moments importants dans la mesure où on va leur expliquer que cette envie qu'ils ont de rejoindre l'association doit s'accompagner d'une certaine forme d'obligation, hein, parce que on n'est pas des professionnels, mais on est il faut qu'on acquiert une sorte de professionnalisation, parce qu'on est face à des personnes et on a des responsabilités par rapport à des personnes. On va leur dire un certain nombre de choses, on va les orienter vers un certain nombre de choses, et il ne faut pas qu'on commette d'erreurs, et il faut qu'on y réfléchisse.
Oui, mais Pascal, obligation, c'est un gros mot quand même. Hein? Obligation, c'est un gros mot. Je suis bénévole, je suis libre de mon temps, je fais ce que je veux, je suis bénévole, je suis libre de mon temps. Donc, obligation, c'est un gros mot.
Moi, je me permettrais de dire que des obligations, eh bien, nous sommes confrontés à des obligations dans tous les aspects de notre vie, parce qu'on n'est pas des troncs libres comme ça. Un engagement dans une association, ce sont des obligations. Les obligations, c'est pas forcément quelque chose d'insupportable. C'est quelque chose qu'il faut intégrer. Si on veut avoir ensuite le sentiment de bien travailler, parce que c'est important aussi quand on s'engage dans quelque chose, ensuite d'en retirer ce sentiment d'avoir bien travaillé.
Oui.
Voilà, donc c'est quelque chose qu'on doit communiquer aux futurs bénévoles, aux bénévoles actuels, c'est que on est tenu de se former.
Et on avance. Ouais. Temps, oui. Qualité, obligation, c'est quand même des choses.
L'obligation, c'est pas forcément non plus une contrainte. Hein.
Non.
L'obligation, c'est. Obligation de se former, c'est plutôt sympa.
Par exemple, voilà. Obligation de se former, obligation de participer à des réunions régulières.
Oui.
Mais ça demande un effort.
Ça demande un effort. Ah, bah, bien sûr. Oui.
Des temps d'évaluation aussi.
Des temps d'évaluation, oui. D'auto-évaluation, d'évaluation en groupe, il y a ça aussi. Oui. Mais en fait, aussi, c'est pas. Ce que je veux dire, c'est quand on recrute pour des nouveaux bénévoles, les gens ne mesurent pas, on ne mesure pas forcément. L'amplitude de la tâche. On ne mesure pas forcément l'extrême complexité de Médecins du Monde, des différentes ramifications.
Voilà.
Enfin, c'est quand même un truc énorme. Quand même.
Est-ce que dans les obligations, par exemple, il s'agirait de s'intéresser à Médecins du Monde au sens large,
oui,
c'est-à-dire de ne pas être uniquement centré sur sa mission, sur son programme, sur son activité. Je sais pas, je viens deux fois par mois faire 6 heures ou 3 heures, on sait rien, peu importe. Mais finalement, la vie de l'association, les grandes orientations, les grands débats, les groupes de réflexion, etc. J'en ai rien à cirer. Non, je pense que voilà, ça fait partie des choses sur lesquelles on peut mettre l'accent. Sur cette question de bénévolat, ça en fait partie et c'est vraiment une donnée.
Mais en même temps, je trouve que quand on parle de temps et de qualité, bon, c'est vrai que Médecins du Monde est très chronophage quand même. Si tu veux, quand on voit la masse de mails que l'on reçoit, si tu veux tout lire sur le local, sur le national, sur l'international, tu passes ta vie.
Oui, effectivement. Oui.
C'est vrai. C'est comme ça que je. Tu peux être complètement.
Tu peux être Médecin du Monde jusqu'au voilà. Produit.
Mais il y a je pense qu'il y a plusieurs niveaux d'implication dans l'association.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on peut tout à fait considérer qu'un bénévole va faire son travail de bénévole, va bien le faire et va consacrer deux heures par semaine. Et puis après ça, on va lui suggérer. Qui peut-être devenir adhérent dans l'association, puisque c'est quand même quelque chose qu'on va proposer toujours aux bénévoles, devenir adhérent. Et à ce moment-là, lui dire, non seulement tu vas pouvoir faire ce travail auprès des bénéficiaires, ce qu'on appelle les bénéficiaires, mais tu pourras aussi avoir une action dans la vie de l'association avec tous ces, comme disait Claude, toutes ces ramifications.
Participer au vote.
Donc, il y a plusieurs niveaux d'implication et je crois qu'il faut respecter le fait que des gens veuillent faire ce travail auprès des bénéficiaires, et puis d'autres qui veulent s'engager plus dans la vie d'association, dans son militantisme, puisque il s'agit aussi de descendre dans la rue parfois, de rencontrer des personnes qui sont responsables d'institutions publiques, d'autres associations. C'est très divers. Je pense que l'engagement dans une association comme celle-là offre une grande diversité. C'est peut-être aussi ce qui fait ça.
Claude. Mais ce que tu dis, je pense, à travers ce que tu dis, je me dis qu'en fait, c'est pas tant le temps que l'on passe, c'est plus, ça pose la question de la communication au sein de Médecins du Monde entre les différents bénévoles. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, il y a des gens qui vont venir à l'accueil, enfin au CASO, je prends le CASO ou Soins pour tous, et qui vont se dire, ben, moi je consacre 2 heures par semaine à Médecins du Monde. Et après, ce qui me paraît intéressant, c'est de voir comment ces personnes qui ne passent que 2 heures par semaine, voire tous les 15 jours, on peut récupérer leurs paroles, leurs témoignages, pour alimenter les autres bénévoles qui sont beaucoup plus engagés, je dirais, sur le plan politique et militant. Enfin, voilà, ça pose le problème de la fluidité des liens et de la communication entre les uns et les autres. Ça pose cette question-là, en fait. Parce que du coup, ça résout un peu la question du temps. Parce que, effectivement, on parlait tout à l'heure des salariés qui peuvent être bénévoles. S'il y a des salariés qui sont bénévoles, ils ne vont pas passer autant de temps que nous qui sommes à la retraite. Enfin, toi, c'est ça aussi. Et je me dis, pourtant, leur présence, au moment où ils sont à Médecins du Monde, est hyper importante. Quand ils sont au camion, quand ils sont au TDS. Et donc, je me dis, en fait, il faut s'appuyer sur toutes les forces vives et voir comment on développe ou on amplifie peut-être la communication. Enfin, c'est déjà un petit peu le cas, mais quand même, ouais. On peut remarquer que le lundi matin, en réunion d'équipe, on est toujours un peu le même noyau, quand même. Donc, tu vois, après, est-ce qu'on n'a pas le risque aussi qu'on tourne un peu en rond? Enfin, toi, on s'habitue aussi un peu à être avec... On connaît ça, on connaît bien les travers de ce truc-là. Tu vois, d'être...
Yamina?
Bah justement, pour rebondir sur ce que disait Claude, c'est pour cela en partie qu'on a fait un questionnaire à destination des bénévoles. Donc, on a préparé ça, on a envoyé par courrier, justement, pour essayer d'améliorer la communication au sein de la délégation et puis de comprendre aussi pourquoi, par exemple, certains bénévoles n'étaient pas dispo, n'étaient pas présents aux réunions du lundi. Ça a plutôt l'air d'être lié plutôt au créneau, etc. Donc voilà, il y a des choses à mettre en place. Donc évidemment que la communication, faut toujours essayer d'améliorer. Après, cet échange concernant le temps, la qualité de l'engagement et les obligations, il ne faut pas que ça fasse peur à nos auditeurs. L'idée, ce n'est pas de dire que pour s'engager à Médecins du Monde, il faut être là 24h sur 24 et puis se donner à fond et qu'on n'a pas d'autres... On n'a pas de vie à côté.
Je ne crois pas que ce soit ça qui a été dit.
Non, mais alors en fait, c'est important de quand même de préciser que c'est vrai, que Médecins du Monde, c'est particulier par rapport au noyau de Médecins du Monde, ce qu'ils défendent, ses idéaux, ses valeurs. Donc, ce qui est important de faire justement quand on vous recrute des bénévoles, quand vous faites les réunions d'information. Je pense que c'est cette information-là qui est importante à avoir pour les personnes qui veulent s'engager. Après, le temps qu'ils vont devoir consacrer à leur engagement, ça, c'est vrai que ça vient par la suite.
Alors moi, j'ai envie de poser une question, c'est la question du cadre.
Oui.
C'est-à-dire, on voit bien que c'est complexe, on voit bien qu'il y a plein de choses qui sont en jeu dans tout ça, et on voit bien que être bénévole, c'est rentrer, enfin, être bénévole à Médecins du Monde, puisque c'est ça qui m'intéresse, c'est rentrer dans un univers, dans un monde, dans une communauté, et que le risque, c'est d'être un peu lâché dans la nature, et d'être tout d'un coup confronté à des difficultés, des incompréhensions, à des choses pas faciles. Et est-ce qu'il y a besoin d'un cadre un peu plus structuré? Enfin, il y en a déjà, on l'a évoqué un peu en partie tout à l'heure, Pascal a parlé du recrutement, de la façon dont on informe les gens, etc. Mais qu'est-ce que ça évoque pour vous, la notion de cadre? Qu'est-ce que c'est qu'un cadre? Sachant que dans effectivement, c'est un peu, ça pourrait être antinomique avec la notion de bénévolat. bénévolat, liberté, etc. Et puis, cadre, bah, c'est un peu contraignant.
Pascal. Première chose, moi, je pense que le cadre, c'est quelque chose qui est préexistant. Enfin, si on se met à la place d'un bénévole qui arrive, c'est quelque chose qui est préexistant, qui est construit, dans lequel la personne va s'intégrer et qui va lui donner justement le mode d'emploi, le mode d'emploi par rapport aux actions qui va être amené à mener auprès des bénéficiaires. Donc le cadre doit être quelque chose qui doit être relativement précis pour que les personnes sachent, une fois qu'elles sont rentrées, une fois qu'elles sont sur leur programme, ben, comment on travaille, sur quelle base doit s'appuyer l'action qu'on va mener. Et puis, les valeurs auxquelles on doit se référer, parce que ça, c'est très important. Les valeurs, les attitudes. Et ça, c'est quelque chose qui doit être discuté, je pense, assez régulièrement. Est-ce qu'on doit se reposer toujours la question du cadre?
Ça, c'est une notion très importante. Hein. Les valeurs... je crois que c'est un élément très fort à être en grande vigilance par rapport à ça. C'est-à-dire les valeurs et les comportements, effectivement. Comment on est bénévole par rapport aux bénéficiaires qu'on accueille. Et c'est vrai que c'est facile de définir un cadre pour dire c'est de telle heure à telle heure les permanences, c'est la philosophie générale et celle-là. Mais définir qu'est-ce que c'est qu'une valeur humaine, c'est quand même très très complexe. Et quand on intervient auprès des bénévoles pour leur dire ben, il faudrait peut-être mieux fonctionner comme ça, parce que ce que tu renvoies là, c'est pas vraiment ce qu'on souhaite renvoyer comme image, c'est complexe. Mais je pense que ça devrait être notre ADN, enfin, on a beaucoup d'ADN, ça devrait être une des ADN communes, et on devrait avoir là-dessus être tous en phase, quoi. Parce que ça paraît vraiment la base fondamentale. Yamina et après Pascal.
Ouais, alors j'ai fait la réunion d'information très récemment par rapport à vous, je crois que c'est un peu plus en ce qui vous concerne, vous êtes bénévole depuis bien plus longtemps. Et du coup, c'est encore très très dans mon esprit, et j'ai eu l'occasion, j'ai été informée du cadre. Moi, je trouve que ça a été abordé pendant la réunion d'information. Donc les valeurs ont été abordées, et la bienveillance, la manière dont un bénévole idéalement doit agir au sein des Médecins du Monde, l'attitude vis-à-vis des bénéficiaires, tout ça, ça a été abordé lors de la première réunion d'information. Et donc, je pense que voilà, un bénévole qui intègre les Médecins du Monde aujourd'hui, il a cette information dès le départ, et donc il s'engage en connaissance de choses.
Ok. C'est bien de le savoir. On aime bien avoir des retours comme ça.
Voilà.
Ça fait plaisir, parce qu'on se donne un peu de mal pour essayer de faire que les choses soient dites et énoncées et ouvertes, en tout cas. Pascal.
Oui, là encore, je vais aller dans la suite de ce que dit Yamina, parce que je voulais, par exemple, me référer à des situations qu'on peut vivre concrètement avec des bénéficiaires. Ce sont des gens qui sont souvent dans la difficulté, qui arrivent après un parcours migratoire. C'est des gens qui ne connaissent pas encore le pays, qui ne connaissent pas encore les habitudes d'ici, et qui vont peut-être avoir parfois des attitudes vis-à-vis de nous qui vont nous heurter. Parce que ça arrive, c'est des choses qui arrivent. Nous, on va être le bénévole, là, plein de bonne volonté, qui veut donner de sa personne. Et puis, on va être face à des personnes qui sont dans des situations contraintes, qui sont dans des situations angoissantes, parce qu'ils ne savent pas de quoi demain sera fait, et puis qu'ils n'ont pas de papier et tout ça. Et il faut qu'on garde en tête, justement, ces valeurs-là, savoir qu'on est dans le non-jugement, qu'on est dans la bienveillance, comme tu disais, dans l'inconditionnalité, c'est-à-dire qu'on ne va pas dire bah, celui-là on le veut, celui-là on ne le veut pas. C'est quelque chose sur lequel on va s'appuyer, qu'on va partager et qui va nous donner justement cette ressource qui nous permettra bah, de rester face à la personne dans une bonne attitude et de ne pas laisser aller, je sais pas, des pulsions, des réactions qui seraient trop vives.
L'intérêt après peut-être aussi d'échanger et puis aussi l'intérêt de l'analyse des pratiques. Se dire voilà, j'étais dans telle situation, j'étais en difficulté, est-ce qu'il peut arriver on n'est pas toujours.
Ça tombe bien moi aussi et on en parle.
Voilà, c'est ça. Et justement là aussi, le jugement aussi par rapport à l'autre bénévole qui a rencontré une difficulté, de dire voilà, de pas dire bah, moi j'aurais pas. Peut-être que j'aurais fait autrement, mais on ne sait pas. De toute façon, on est tous capables des mêmes émotions. Donc, on peut traverser toutes les émotions, la colère, l'indignation. Il suffit de s'arrêter 5 minutes et de se dire « Merde, là, j'ai pas trop été au top là, sur ce truc-là. »
J'ai pas eu la bonne réaction.
Ouais, voilà.
J'ai loupé le coche. Donc, voilà.
Et justement, ça peut correspondre aussi à ce qu'on définissait comme des obligations tout à l'heure, mais qui n'est pas un terme péjoratif. Par exemple, le fait de participer à des programmes de formation, des formations sur la gestion des conflits, par exemple, il y a un certain nombre de formations comme ça qui doivent pouvoir exister et être mises à disposition des bénévoles qui ont eu à faire à ce genre de situation. Donc, c'est tout l'intérêt justement d'échanger sur ce qu'on vit.
Tu vois, je reviens aussi sur le temps dont on parlait. Quelqu'un qui passe 2 heures simplement par tous les 15 jours ou par mois, médecin du monde. Va pas pouvoir entre guillemets bénéficier, expérimenter l'analyse des pratiques et la confrontation avec les autres bénévoles. Il y a, y a aussi forcément des déséquilibres et des différences de posture et de obligatoirement liées au temps qu'on y passe quand même, me semble-t-il.
Alors, j'ai sous les yeux là le rapport final de la capitalisation d'engagement bénévole à Médecins du Monde. Je me disais, c'est intéressant de citer ça parce qu'en fait, on ne va pas rentrer dans le détail, bien sûr, mais il y a différents chapitres. Il y a l'engagement bénévole à Médecins du Monde, les leviers spécifiques, on vient d'en parler quand même pas mal. Prendre soin de l'engagement, les freins à dépasser, ça c'est important, c'est-à-dire comment les bénévoles, on en prend soin à l'intérieur de l'équipe, à l'intérieur de la communauté Médecins du Monde. Faire équipe et appartenir à la maison commune, la question de l'équipe. On était hier en réunion là-dessus, et moi j'ai beaucoup évoqué ça sur la question de l'équipe, parce qu'on se posait plein de questions sur comment travailler avec les salariés, comment travailler, etc., les niveaux de décision et tout, mais c'est une équipe, si on travaille pas en équipe, c'est foutu, quoi. Assurer le suivi des bénévoles. Une fois qu'on est bénévole, une fois qu'on rentre dans l'action, une fois qu'on a dit tout ce qu'on a dit là précédemment, comment on est accompagné, comment on est, et c'est fait aussi par des bénévoles, c'est des bénévoles qui accompagnent des bénévoles, qui sont tuteurs des bénévoles, mais c'est aussi d'autres gens, c'est les salariés, c'est tout ça. Poser un nom au cadre bénévole, donc là, dans ce document, il y a des réponses, mais nous, on vient de l'évoquer de manière assez simple, mais assez claire, je trouve. Vers des bénévoles militants, porteurs de plaidoyer, on a aussi évoqué cette question de quand on devient bénévole, et là, il y a une chose importante à dire tout de suite, c'est que notre action sur le terrain, elle sert à faire des combats, à faire changer des choses, à faire évoluer la société. Et puis, après, c'est autre chose, c'est accompagner l'évolution des différents programmes, ça sert à une autre dimension. Mais dans tout ça, ce que je trouve, il y a une question qu'on n'a peut-être pas encore abordée, qu'on pourrait peut-être aborder pour terminer, c'est la notion de communauté. C'est-à-dire, comment faire communauté. Pour moi, il y a une question centrale au sein d'une délégation ou au sein d'une association, c'est comment on arrive à faire communauté. Et au-delà des messages qu'on envoie à l'extérieur, comment en interne on fait communauté. Et on sait qu'il y a une question qui pose toujours problème, c'est le travail en silo, c'est le travail en petites équipes, que parce qu'on est pris, parce qu'on travaille déjà beaucoup, parce que ceux qui travaillent, qui donnent du temps aux bénévoles, n'ont pas le temps de faire. Et ça, c'est une vraie question. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'essaye depuis 2 ans de bagarrer là-dessus, mais il y a des choses qui se passent, mais c'est compliqué.
Yamina.
Je n'ai pas de réponse. Mais c'est une question ouverte et je pense que c'est bien de la poser. Parce que du coup, c'est une réflexion à mener sur la vie associative, notamment. Alors, on le répétera jamais assez, même si ce serait bien que ça soit du passé maintenant, mais on m'intéresse pas d'un peu particulière, donc il faut penser ça en dehors de ce contexte que vous venez de dire, qui a mis un frein à toutes les actions de toute façon de vie associative, où on pouvait mener des actions ensemble, en groupe, en équipe, donc tout ça, c'est voilà, il faut que ce soit derrière nous. Mais en effet, je pense que c'est une association, donc la vie associative est essentielle. Et un des leviers justement pour faire communauté, comme tu dis Bernard, c'est les actions de vie associative à mettre en place, au sein de l'éducation, mais plus généralement
Pascal. Alors je parlais hier avec une bénévole, qui est une bénévole qui est sur Soins pour tous, donc elle intervient en maraude, donc elle fréquente pas du tout ce lieu dans lequel nous sommes, les bureaux de Médecins du Monde, de la délégation. Elle fréquente les bénévoles de cette équipe Soins pour tous. Elle s'est attachée à certains parce qu'elle s'entend bien avec certains. Et elle me disait que c'était très important dans sa démarche de bénévolat, justement, de pouvoir rencontrer les gens. Il y a ce travail auprès des bénéficiaires, bien sûr, c'est important pour elle, mais aussi rencontrer des gens, s'attacher à des gens, avoir des échanges. Et elle regrettait, mais c'était pas une remise en question du tout du fonctionnement de Médecins du Monde, mais ces moments, justement, collectifs où le groupe se retrouve et les gens peuvent se reconnaître les uns les autres comme partageant, justement, les mêmes valeurs, des actions proches. Et voilà, bon, on a bien sûr évoqué le temps du Covid qui a été vraiment une mauvaise période, et on évoquait par exemple l'idée, puisque c'est quelque chose qui circule, d'une journée randonnée, la randonnée des bénévoles de Médecins du Monde. Et elle disait, ben, effectivement, ça, moi j'aimerais pouvoir participer à ça parce que là je pourrais me rendre compte physiquement de qui sont ces gens avec qui je partage les mêmes valeurs, les mêmes actions, et voilà, et que je ne connais pas encore et que j'ai le désir de connaître.
Qui est là depuis
4 ans, et qui m'expliquait qu'elle fait du bénévolat depuis l'âge de 15 ans, et parce que pour elle, ça fait partie de son ADN, comme on disait tout à l'heure.
Voilà. Ce qui me plaît dans ce que tu dis, hein, dans cette réaction de cette jeune femme, hein, c'est qu'il y a de la frustration du manque de communauté. Mm-hmm. Et je fais référence à il y a Tony qui travaille sur le groupe Soins pour tous, qui a envoyé un petit message à tout le monde pour dire bon, et alors si on bouffait ensemble, et je trouve ça génial.
Bah, moi aussi, je trouve ça génial.
Pas de gauche, je suis pas là.
Bah, moi non plus, je vais le dire.
Et tout le monde dit c'est génial.
Oui, tout le monde l'a dit.
Donc on sent la frustration que tout le monde a subie pendant le Covid. C'est beaucoup lié au manque de liens qu'on avait commencé à mettre en place, notamment avec le grand raout de septembre, là, qui était quand même assez sympa et qu'on aurait dû reproduire. Là. Donc oui, effectivement, faire communauté, c'est ça. Et je crois qu'il faut qu'on soit très très vigilant là-dessus et qu'on crée des occasions plus régulières. Les gens viendront ou viendront pas.
Oui, c'est ça, voilà.
Voilà.
Peut-être, oui, effectivement, comme tu dis, peut-être plus régulière.
Ouais.
Et, bah oui, parce que tout le monde ne peut pas venir, tout le monde n'est pas dispo, mais c'est vrai que se réunir autour d'une bouffe, autour d'une table, ça crée des liens, tu vas voir des gens que tu ne connais pas, tu entends. Enfin, c'est le moment de venir, ça aussi.
Mais on en a fait l'expérience en plus, c'est pour ça qu'on a envie de
ça.
Donc on a envie de retrouver ça. On a fait l'expérience, par exemple à la Factory, c'était une grande la journée de la délégation, c'était vraiment un grand moment. Et puis aussi, ce qu'on ne connaît plus et ce qu'on ne pratique plus, c'est d'aller à Paris, d'aller au siège. Et ça, c'était quelque chose où on voyait des gens qui venaient d'Alsace, de Toulouse, ou qui venaient de République démocratique du Congo, ou de Burkina Faso. et qui se retrouvaient tous dans ce lieu. Et ça, c'était fort, moi, je trouve que c'était fort.
Et justement, par rapport à ça, il y a une demande, là, en ce moment, du siège, là, sur témoignage. Qu'est-ce que vous pouvez témoigner de l'ancien siège de Médecins du Monde, puisque ça va être transféré. Et ben, moi, c'est un peu ça que j'ai senti la première fois que j'ai mis les pieds rue Marcallet. D'abord, c'est un grand hall immense. Et alors, il y a des affiches de partout, des différents pays, etc. On a l'impression de pénétrer dans le monde.
Oui.
Et Médecins du Monde, ça a du sens, quoi. Mm. Ça a vraiment du sens. Et ça, effectivement, c'est des choses qu'on a un peu perdues ces derniers temps. Et quand on voit, en plus, ça travaille de notre délégation. Nous, on a vécu un mandat qui a été, pas amputé, mais largement freiné par ce Covid. Donc, il faut qu'on mette les couverts, là, sérieusement.
Il faut retisser les liens.
Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres choses à dire. Certainement, on pourrait en parler pendant des jours et des jours. Il y a en ce moment deux journées complètes là-dessus au niveau national. Il va y avoir des journées... Trois jours la semaine prochaine des journées d'émission, donc c'est des débats sans fin et sans avec quand même des orientations nouvelles, des concrétisations d'idées. Hein. On n'est pas que dans l'échange. Donc voilà. Donc écoutez, merci à toutes et à tous de ce magnifique entretien qui va passer sur les ondes de la France entière et du monde entier. Et qui serait peut-être plus intéressant que certaines informations qu'on entend tous les jours. Hein, quand on entend ce qui se passe au niveau des élections et des tendances de notre chair, on coupe le micro, c'est une chose que j'ai jamais en prison.
Et longue vie à Médecins du Monde.
Et longue vie à Médecins du Monde. Et on est fiers d'être à Médecins du
Monde. Ah oui. Fiers. Ah oui, absolument.
Merci à tous.
Bisous à tous.
Bisous. À plus tard.